Merci à tous ceux qui se joignent à nous. Mais on a beaucoup parlé du rôle des parents dernièrement depuis le décès qui a touché tout le monde au Québec de cette petite fille de 7 ans qui avait été l'objet pendant des années de sévices sans nom, inimaginables. On a parlé bien sûr du rôle de la société en général, mais on revient souvent au rôle du parent parce que on le sait tous, nos parents, c'est notre première influence, notre mère, notre père. Sont les personnes, les premières personnes vers qui on se tourne. Le petit enfant regarde, lève les yeux vers ses parents, recrée souvent ce que ses parents lui envoient comme modèle. Et des mauvais parents, ben, on passe le reste de notre vie à essayer de s'en défaire, parfois de se défaire des séquelles qu'ils nous ont laissées. Comme des bons parents, ben, on peut profiter de leur éducation puis de leurs bons conseils et puis probablement être des personnes qui sont plus équilibrés. J'ai envie de vous demander, vous, est-ce que vous estimez avoir eu de bons parents? Et je voulais qu'on en discute avec des invités qui ont eu des expériences toutes différentes. On en a toutes, finalement. On est tous une famille, je dis souvent à la blague, on vient tous d'une famille dysfonctionnelle. Peut-être pas vous, mais en tout cas, moi, je me mets là-dedans. T'sais, on n'a pas de parents parfaits. Des fois, on a le parent qui est parfait pour nous. Mais c'est toujours intéressant, je trouve, de discuter de ça. Moi, c'est un sujet de curiosité de savoir quels parents, quelle éducation, quelle enfance les gens ont eue. Alors, j'ai invité Geneviève Evrel, que je connais bien. Vous la connaissez, notre Miss Sushi nationale, entrepreneur, qui a vécu dans une famille assez dysfonctionnelle. Merci, Geneviève.
Oui, quand même.
Ça nous a donné l'occasion de faire un beau documentaire sur ta vie. Et on a un beau projet de film aussi qui est en train de se préparer. Geneviève, donc, qui, on peut le dire, hein, père alcoolique, mère alcoolique, toxicomane. Finalement, tu t'es retrouvée petite à être obligée de te débrouiller toute seule. T'es passé d'une famille d'accueil à une autre. Bref, tu t'es ramassé à 15 ans dans ton appart, autonome, à gérer ta vie.
Oui, avec mon nom écrit sur un bail, rien de moins, à l'aube de mes 16 ans. C'est sûr que, tu sais, généralement, les gens sont un peu intrigués de par mon histoire à cause de ma résilience. Tu sais, je fais beaucoup de conférences d'ailleurs là-dessus parce que j'en retiens pas d'amertume. Tu sais, ouais. Je suis comme un peu dans... Ça ferait vraiment un peu ésotérique de dire que je suis dans la lumière. Mais, tu sais, c'est un peu ça dans le sens où, tu sais, sur papier.
Pas à tes parents.
Non, c'est ouais. Ça. Sur papier, j'ai un père alcoolique, toxicomane, pas présent dans ma jeune enfance. Ma mère, alcoolique, après ça, est devenue junkie, narcomane. Donc, tu sais, tu te dis, ben, voyons donc comment ça se fait que t'es pas fâchée.
Ouais.
T'as le droit d'être fâchée.
Ouais.
Mais, je suis pas fâchée. En fait, je suis triste. C'est le sentiment qui m'a le plus habité quand j'étais petite. C'était pas d'être frustrée, c'était pas d'être amère, d'être triste de ne pas avoir une famille normale. Et là, je dis bien normale, est-ce qu'il y a vraiment des familles normales? Ça aussi, c'est une question qu'on pourrait discuter longtemps, dans le sens où personne n'est parfait, tu sais. Puis... Mais c'est toujours la peine qui m'a vraiment le plus envahie par rapport à pourquoi maman tu te fais ça, tu sais, pourquoi
ouais.
Papa tu t'es fait ça aussi, tu sais.
Ouais. Mais en se faisant du mal à eux, ils t'ont fait quand même un peu de mal à toi
oui.
Par la bande. On
oui.
Va y revenir. Martin Provencher est avec nous, homme d'affaires bien connu, enfance tragique aussi, tragique
oui.
Carrément,
mm-hmm.
Carrément.
Oui,
Martin, ton père a battu ta mère, tes parents se sont séparés quand t'avais 9 ans et ta mère ensuite s'est mise en couple avec un homme tout aussi violent, sinon plus, qui a fini par l'assassiner
ouais.
Devant toi.
Oui, ben oui, c'était dans l'entrée chez nous. Ouais, tout ça, c'était difficile, c'était bouleversant, puis ça m'a pris beaucoup de temps à intégrer tout ça. Aujourd'hui, j'ai 48 ans, fait que ça fait un certain temps quand même que tout va bien. Mais ça m'a pris du temps, puis je suis allé demander de l'aide, je suis allé consulter à plusieurs reprises au cours de ma vie pour régler différents éléments. Mais un peu comme avec une voiture qu'on retourne au garage occasionnellement, ben avec soi-même, je pense qu'il faut faire la même chose aussi. Mais tout ça, ça m'a beaucoup aussi étrangement apporté. Ça m'a donné une grande drive, puis ça m'a donné aussi une référence qui fait que je peux faire à peu près n'importe quoi, n'importe quel projet. Puis ça m'a développé aussi une capacité d'adaptation, je dirais quand même assez élevée, qui fait qu'en voyage, je peux me retrouver dans n'importe quel contexte, puis je tire mon épingle du jeu. Puis ça me demande un minimum d'effort parce que la route, je l'ai parcourue.
Mm.
Puis aujourd'hui, je suis père de deux garçons qui ont 9 ans et 11 ans maintenant. Mais je les ai eus un peu plus tard, c'est-à-dire 37 et 39 ans. J'ai attendu d'être avec la bonne femme, puis j'ai attendu d'être prêt, de me sentir prêt. Parce que moi, je pense que dans la vie, avoir des enfants, je pense que c'est le projet ultime. C'est le projet des projets. Tu sais, les gens, ils veulent s'acheter un chalet, ils veulent partir en voyage. C'est tout des projets. N'importe quel projet demande un peu d'argent, des fois beaucoup. Ça demande du temps, puis ça demande aussi de l'énergie. Mais avoir un enfant, parfois, peut-être les gens réalisent pas, mais oui, ça va prendre de l'argent, c'est clair. Même dans notre société où on dit que tout est gratuit, c'est pas tout à fait vrai, là.
On dit-tu que tout est gratuit? Moi, je pensais que tout avait de la...
Ouais. En tout cas, on essaie de nous faire accroître ça, par exemple, pour l'école.
On dit paye plus tard. Ça, c'est une autre affaire.
Mes gars vont à l'école publique, puis on passe notre temps à payer pour le service de garde, puis on reçoit des activités, puis il y a toujours une part à payer. Mais bref, ça prend de l'argent, ça prend du temps. Si on veut être un parent impliqué, moi, je parle pas d'avoir des enfants, puis on connaît tous des parents qui s'en occupent pas, puis arrive un défi, puis ils font semblant qu'ils ont rien vu, puis ils poussent ça en dessous du tapis. Bon, mais moi, quand j'ai décidé d'avoir des enfants, j'ai fait comme tous les projets que j'entreprends, je le commence et je le finis. Et d'ailleurs, je dirais que chez moi, les règles sont au minimum. Ils ont beaucoup de permissions, ils ont le droit de faire bien des choses, mais le respect et la politesse, ce qui va ensemble, ça, c'est incontournable. Commencer quelque chose, mais le finir. Donc, on finit ce qu'on commence. Là, la persévérance, moi, ça, c'est un clou sur lequel je frappe à chaque automne puis à chaque hiver. Bon, là, on reçoit tous les dépliants, les activités, tout ça.
Fait que t'es très impliqué, finalement, comme parent.
Je mets beaucoup de temps. Oui, le matin...
Mais toi, t'as pas eu ça comme enfant.
Non, mais justement, je leur donne ce que moi, j'ai pas eu, puis ça me nourrit énormément. Ça m'a pris du temps à me décider, dans le fond, parce que j'avais peur d'être frustré de donner ce que j'avais pas eu.
D'être un mauvais père?
Ben, j'avais peur d'être un mauvais père ou... Ben, plus jeune, oui, j'avais peur d'être un mauvais père, mais à un moment donné, je me suis vite rendu compte que la violence et tous ces éléments-là, ça me rejoignait pas, ça me ressemblait pas, c'était pas moi, ça m'habitait pas. J'étais passé à autre chose, puis je suis allé demander de l'aide pour amener tout ça plus loin. Mais ensuite, j'étais sûr que je serais capable d'être un bon père dans le maximum de ce qu'on... Il y a personne de parfait, moi non plus, là. Mais... de donner le maximum, j'étais sûr que j'étais capable de le faire, mais j'avais peur que ça me frustre de donner ce que j'avais pas eu, mais au contraire, tu sais. Puis moi, souvent, juste dire que quand j'interagis puis je m'implique avec mes fils, puis des fois, j'ai l'impression qu'à l'école, ils ont juste mon numéro comme parent accompagnateur, là, j'en attache des patins puis j'en fais des affaires, mais je leur donne tout ce que j'ai pas eu, puis souvent, je me dis, moi, mon objectif, c'est quand ils vont avoir 20-25 ans, puis qu'ils vont avoir des blondes, puis qu'ils vont venir souper à la maison, je veux qu'ils me disent, on a trippé en fou, on a fait ça, on a fait ça, t'en souviens-tu, puis qu'on a fait tellement d'affaires qu'il y a des affaires, je m'en rappelle même plus, mais que ce soit eux qui me le racontent. Fait que c'est ça qu'on fait.
C'est un peu créer des moments, puis des souvenirs, ce qu'on n'a pas, nous. Puis, tu sais, je parle pour nous, mettons, là.
Oui, t'as raison.
Mais moi aussi, tu sais, à la fête des mères, là, il y a 3 jours, il y a 4 jours, j'ai reçu mes beaux-parents, mes parents, mon père, sa femme, mon fils est évidemment là, mon conjoint. Puis j'ai fait une grande tablée de bouffe. Moi, j'associe souvent des moments magiques à de la nourriture, là, ma maladie mentale. Mais puis on a levé notre verre à la fête des mères, mais j'ai aussi levé mon verre en disant à noter que dans l'avenir, à toutes les fêtes des mères, je reçois au homard. Tu sais, j'aime créer des traditions, j'aime créer des moments comme ça parce que je trouve que ça fait festif, ça rassure d'avoir des moments comme ça dans l'année où on se rassemble quand il y a un événement puis je trouve ça vraiment
le
fun.
Parce que toi, t'as pas eu ça.
Ben non, mais moi j'ai pas eu ça, mais pas en tout. J'ai mangé une fois à même table avec mes parents, tu sais, je pense que c'est un Noël random que mes parents ont été à la même table puis ils étaient évidemment pas ensemble, ils étaient plus amis. Mais c'est ça. Mais comment c'est le fun d'être assis à la même table que ses parents, de manger, d'échanger, de parler, voyons. Alors, je veux créer des moments comme ça, moi, à long terme. Donc, c'est un peu ma manière. Mais moi, mon garçon est tout petit, contrairement aux tiens qui sont un peu plus vieux.
Ouais.
Alors, je suis encore un peu là-dedans à savoir et à voir comment je vais être comme maman, tu sais.
On a Claudia Bachar qui est avec nous également, qui est animatrice, blogueuse et qui nous avait parlé il y a 2 ans de sa relation avec sa mère. Elle a également deux fils de 18 et 20 ans aujourd'hui. Bonjour, Claudia.
Allô tout le monde.
Bonjour.
Tu nous avais parlé de cette relation difficile que tu as eue avec ta mère. C'en est où aujourd'hui? Parce qu'on parle de l'amour qu'on a eu de nos parents. Est-ce qu'on estime avoir eu des bons parents dans la vie? Moi, je trouve que c'est important d'être capable de savoir, de regarder son enfance puis se dire, OK, ben ça, c'est l'enfance que j'ai eue. On peut peut-être pas la changer, mais on peut être meilleur, une meilleure personne en comprenant d'où on vient. Puis aussi pour les autres, on est meilleur. Toi, par rapport à la relation que tu as eue avec ta mère, c'était assez froid. Merci. Hein?
Ben ça a été froid, c'est-à-dire que à l'âge de 10 ans, ma mère m'a demandé de ne plus l'appeler par le mot « maman ».
Ouais.
Alors, on devait l'appeler par son prénom. À ce moment-là, ça a été une coupure émotive tellement grande. J'avais l'impression que je vivais le premier deuil de ma vie sans être capable de mettre des mots. Aujourd'hui, je suis capable. Ça a été le premier deuil. Après ça, j'en ai vécu un deuxième lorsque je me suis séparée du père des enfants. J'avais besoin de ma maman. j'ai pas eu d'accompagnement de sa part. Et le troisième deuil, c'est un peu compliqué dans le sens que j'avais besoin d'aide et j'avais pris mon téléphone et j'avais vraiment choisi le mot maman en me disant elle va sûrement sentir mon désarroi. J'avais besoin d'être accompagnée. Et la première chose que j'ai dit au téléphone, je lui ai dit maman, j'ai besoin de toi. Et ça a été encore un refus. Alors, et tout ça, elle le sait. Je lui ai dit que j'avais vécu trois deuils de son vivant. Elle vit toujours. Nous avons une relation maintenant cordiale. Ça a évolué, Isabelle. Ta question, c'est ça. C'est que j'ai cheminé. Comme Martin, moi aussi, je vais souvent au garage.
Ouais.
Je vais chez le psy. Puis j'écoutais Geneviève. Moi, j'adore écouter des témoignages comme ça parce que Geneviève disait que elle se souvient, le plus grand sentiment, la plus grande émotion quand on est enfant et on vit ces douleurs émotives-là, puis ça va même jusque dans notre corps, c'est la tristesse. Mmh. Et cette tristesse-là, aujourd'hui, je la mets un peu de côté. Et dans différents événements, ma mère est là, que ce soit ben récemment, en janvier, j'ai perdu mon papa d'amour, qui est décédé, mais elle était là au funérail, à Noël, elle était là, c'est cordial. Je sais pas si vous avez remarqué, mais tu sais, je parle de ma mère et je parle de mon papa d'amour. Donc,
ouais.
La relation était différente.
Elle était différente, mais si je me souviens bien, tu le voyais pas souvent, ton père. Il était pharmacien, il travaillait beaucoup.
Oui, je le voyais pas beaucoup, mais les moments de qualité allaient à la pêche.
Moi, OK. T'as des souvenirs, c'est ça? T'as des bons souvenirs avec. Ouais. Est-ce que tu dirais que c'est important de... Parce que c'est fascinant. Vous allez me dire, d'ailleurs, on va aller voir ce que les auditeurs en pensent. Il y a des gens qui ont commencé à m'écrire là, sur isabelle@985fm.ca. Il y a Caroline qui me dit, moi, j'ai été très chanceuse, moi et mes frères. On a eu des parents merveilleux qui nous ont transmis des bonnes valeurs. On a manqué de rien. Pourtant, on était de classe moyenne. Ils ont travaillé fort pour qu'on puisse avoir de belles vacances au camping. Alors, elle dit bonjour et bravo à Gérald et Lisette, à vous, nos parents qu'on aime si fort. Mais en même temps, chez Nicole qui m'écrit, qu'elle dit qu'il y a tellement des gens là, qui ne méritent pas d'être parents, qui devraient être stérilisés. L'image est forte, mais ça vous montre à quel point elle est encore, je sens dans ce qu'elle m'écrit. Elle dit qu'elle a fait le choix de ne pas avoir d'enfants parce qu'elle est convaincue qu'elle leur aurait refilé les tares que ses propres parents lui ont données. Il y a beaucoup de gens qui ont cette impression-là. Si vous voulez, on va s'arrêter ici. Vous restez avec nous, bien sûr, tous les trois. Geneviève Evrel est avec nous, Claudia Ebacher, Martin Provencher. Puis je me tourne vers vous, auditeurs, auditrices. Je vous pose la question, est-ce que vous estimez avoir eu de bons parents? Puis on est honnête. Vous avez vu, mes invités en parlent avec une certaine sérénité du rapport qu'on a avec nos parents. C'est une bonne façon de montrer notre maturité comme adulte, hein, d'être capable de dire, c'est sûr, les parents que j'ai eus. Puis des fois, plus t'as eu une enfance de marde, puis plus ça fait du bien de le dire, tu sais.
C'est une façon d'aller au garage.
C'est ça.
Voilà.
514-790-9850, 1-866-790-9850. À tout de suite, tout le monde. Est-ce que vous estimez avoir eu de bons parents? C'est la question que je vous pose. Vous pouvez nous joindre en faisant le 514-790-9850 et sans frais partout au Québec. Vous appelez en faisant le 1-866-790-9850. Bonjour, France.
Oui, bonjour, Isabelle, et bonjour à vos invités.
Bonjour.
Allô.
Moi, j'estime que j'ai eu de vraiment pas de très, très bons parents. J'estime que mon père nous a volé notre enfance parce qu'il battait ma mère de façon... il est alcoolique. Donc, c'est incroyable comment il l'a battu. Courir dans la maison après mon frère pour le tuer avec un couteau. Alors, c'est des souvenirs de mon enfance que je n'oublierai jamais. Je trouve qu'on s'est fait voler notre enfance. C'est ça qui était surtout qui est surtout dans ma mémoire. Je suis rendue à 71 ans. Mais, comme vous voyez, je n'ai pas oublié, mais je ne suis pas amère. J'ai une très belle vie. Je suis une personne heureuse. J'ai la joie de vivre, le désir de vivre encore très longtemps. Mais c'est les souvenirs que j'ai. Puis,
mais comment, France, ces souvenirs quand même douloureux de cette enfance qui n'a pas été facile, comment ont-ils, vous ont-ils forgé comme adulte, vous diriez?
J'ai été, écoutez, j'ai une entreprise de 250 employés. Donc, vous pouvez voir que j'ai réussi avec mon mari, tous les deux ensemble, à diriger cette entreprise. Donc, j'ai une force de caractère incroyable. Alors, je pense que c'est ça que ça m'a donné. Ça m'a donné quand même autre chose. Puis, comme je vous dis, je ne suis pas amère du tout. Je vendais des bouteilles sur le coin de la rue, vous savez, pour aller chercher quelques sous parce qu'on était tellement pauvres.
Ouais.
Mais comme je vous dis, là, j'ai une très belle vie.
Ouais. Merci.
La vie.
Merci beaucoup, France. Tu as vendu des bouteilles, toi, Geneviève?
Ah oui,
toi aussi,
pour un billet d'autobus à 1,30, je me rappelle.
On a Karine avec nous. Bonjour, Karine.
Bonjour.
Est-ce que vous avez eu des bons parents, vous diriez? Comment ils étaient, vos parents?
Moi, je dirais que j'ai eu des bons parents dans le sens où j'ai eu des parents aimants qui ont été présents, qui m'accompagnaient à mes activités et tout ça, mais j'ai eu un père qui travaillait énormément parce qu'il y avait un restaurant, il travaillait 100 heures semaine, donc j'étais beaucoup avec ma mère, puis je pense que j'ai beaucoup remplacé mon père dans sa vie, donc on avait une relation fusionnelle, puis je pense qu'elle comblait beaucoup ses besoins émotifs à elle à travers la relation qu'elle avait avec moi, ce qui faisait en sorte que j'ai jamais eu une mère qui m'a nommé ce que je faisais de pas bien, ce que j'avais à corriger, qui m'a pas enseigné non plus. Je pense qu'elle les connaissait pas nécessairement non plus, mais les injustices sociales et tout ça. C'est des trucs que j'ai découvert adulte, puis j'ai un petit milieu isolé dans le nord du Québec. Donc, tu sais, moi, j'ai pas vraiment connu ça, mais quand je suis partie de la maison à 17 ans, parce que là, j'ai tout fait, je suis partie aux études, puis ben à ce moment-là, j'ai découvert c'est quoi la vraie vie, en fait.
Ouais.
Même aujourd'hui, j'ai 36 ans, puis ma mère n'est pas encore capable de nommer ce que j'ai comme difficulté nécessairement, les défauts que je peux avoir que moi je connais, puis même si je lui nomme, elle les répète. Tu sais. Mais j'ai eu des parents aimants. Tu sais, pour ça, oui, mes parents même, je n'ai ma mère l'amour avec un grand A, même si c'est comme je pense des fois trop. L'amour qu'elle a envers sa fille, je sais pas si ça peut être trop, mais en tout cas peut-être un peu malsain.
Ouais, je comprends
ce que vous dites. Mais elle a vécu un gros deuil quand je suis partie. Là, elle a mis ma place à table pendant un an.
Oh mon Dieu!
De la maison.
Êtes-vous sérieuse?
Oui. Puis elle qualifie pas que c'est problématique.
Donc, OK.
Wow!
Elle a eu certaines difficultés, mais c'est que puis moi, je travaille social, je travaille auprès des jeunes, justement, puis des familles. Mais si ma mère voit pas ça comme problématique.
Eh ben, merci Karine. Je me tourne vers Claudia et Bachère parce que relation mère-fille, bon, c'est une relation difficile, la relation mère-fille. Hein, Claudia?
C'est moi d'une façon très, très simple parce que là, j'écoutais Karine avec sa mère. Mais c'est parce que ce matin, je me suis amusée, j'ai dit, il y a le mot mère, il y a le mot maman. Et je vais aller voir sur Internet. On dit de mère, non féminin, bon, etc., femme qui a mis au monde un ou plusieurs enfants, femelle qui a plusieurs petits, femme qui est comme une mère, on va même jusqu'à la religieuse, là, le mère grand, etc. Et là, j'arrive sur le mot maman qui dit terme affectueux. Par lequel on s'adresse à sa mère quand on est enfant, qui désigne un lien intime. Alors, moi, je considère que j'ai une mère. Je n'ai plus de maman, mais avec le temps et ce que les deux témoignages de France et Karine nous apprennent, c'est qu'il y a des façons de s'en sortir et il y a des bonnes nouvelles, Isabelle, parce qu'on s'est parlé il y a deux ans. d'à peu près le même sujet, mais c'était le manque d'affection, si je me souviens bien,
ouais.
l'avoir de nos parents.
Oui.
Et il y a
le manque d'amour.
Oui, c'est ça. Et moi aussi, je suis allée au garage souvent. Et merci Martin parce que je vais utiliser ce terme fréquemment. Il y a un des psychologues qui m'expliquait, ok, ton sentiment maternel, toi, tu l'as envers tes enfants. Moi, j'ai deux grands enfants de 18 et 20. Et c'est pas parce qu'on n'a pas reçu quelque chose qu'on n'est pas capable de donner. Et je suis contente d'avoir entendu le témoignage de Martin parce que, oui, moi aussi, j'étais bénévole à l'école. J'étais tout le temps la première à dire, oui, je vais accompagner les enfants pour la sortie, même à la garderie, etc. Je me suis impliquée, j'ai aimé ça. Je le faisais avec mon cœur. Je le faisais pas par, oh, moi, je fais ci, je fais ça. C'est pas ça. Et là, je reviens au psychologue qui m'avait dit, t'as perdu le lien maternel. Alors, j'aimerais que tu trouves chez toi un bout de tissu, un toutou, ou quelque chose. Ça, c'est là. Ah, oh, ouais. Et je l'ai appelé la thérapie par la doudou. Alors, je suis partie magasiner sans chercher vraiment quelque chose. T'sais. Et je suis arrivée devant une belle étagère avec des petites doudous, vraiment toutes petites, pas chères. Et là, j'ai vu deux doudous et là, j'ai hésité entre les deux. Puis moi, j'adore le rose. Les deux étaient roses. J'ai dit, tiens, je vais en avoir deux. Au lieu d'avoir manqué d'une maman, je vais avoir au moins mes deux doudous d'affection maternelle. Je les ai pris douces, j'ai pris le temps de les choisir et cette théorie de la doudou fonctionne. Alors, profitez-en si vous avez un manque. C'est simplement de prendre un temps, vous pouvez dormir avec, vous pouvez l'apporter comme un châle, peu importe la façon.
Et idéalement, c'est pas un de vos enfants, c'est ça que tu nous dis.
Ben non, prenez pas la doudou de votre enfant.
Parce que,
prenez quelque chose qui est représentatif, parce qu'il me disait, lui, c'est un spécialiste des enfants qui ont manqué d'amour dans leur vie, ils travaillent encore en recherche, et après quelques temps, ces deux doudous-là font partie de ma vie dans le sens, bon, je m'accote dessus quand je fais une sieste, etc. Et ça fonctionne. Et une de mes amies me disait, pourquoi t'as ça depuis un bout de temps? Tu sais, puis là, ben, j'y explique un peu. Puis à un moment donné, elle m'envoie un texto avec une photo. Puis elle m'a dit, Claudia, je vais tenter l'expérience de la thérapie de la doudou. Elle s'était acheté une peluche et je suis allée la visiter une semaine après. Puis elle a pris sa peluche dans ses bras et elle m'a dit merci à toi et au psy. Ça vient mettre un petit baume sur un manque que j'avais.
Dans le fond, c'est un petit toutou pour l'enfant que tu as été et qu'on est encore un peu parfois, là, qui peut être cet enfant triste, cette petite fille qui a été blessée. C'est une façon de la rassurer, dans le fond, là.
Mais Geneviève en parlait tantôt. Ouais. Elle avait tout un sentiment de tristesse. Mm. Donc, moi, je crois. Oui, c'est peut-être une béquille, mais peu importe.
Hey, non, c'est pas ça que je dis. Parfait, là. Si ça fait la job, ça fait la job. Là. Au contraire. Ouais.
Tu sais, un enfant cherche l'amour. Et si on ne l'a pas reçu, on est capable d'aller le chercher plus tard. Ouais. Parce que même à 11 ans, moi, je sentais qu'il fallait que je sorte de la maison. Il y a eu une des témoignages là, qui disait qu'il fallait que je sorte à 17 ans. J'ai tout fait. Moi, je l'ai senti vers 10-11 ans. Puis, à 11 ans, j'ai annoncé à mon papa, je veux être pensionnaire. Et c'était à 1h30 de la maison. Et je suis inconsciemment, je suis allée chercher l'amour maternel auprès des religieuses. Elles étaient mes mamans par adoption. Et maintenant, à l'âge adulte, il y a des femmes autour de moi qui représentent cet amour maternel et avec qui je développe de belles relations où j'ai le sentiment d'amour et surtout la confiance. Parce que j'ai toujours dit que j'aimais travailler avec des gars parce que j'avais confiance en mon papa. Et là, je suis en train de développer cette aptitude de travailler avec des filles et je trippe. Parce que justement, il y a un cheminement qui se fait. Puis je pense qu'il n'y a pas de fin à un cheminement. Tu sais, on va au garage, notre voiture est correcte. Ben, on fait un bout de chemin. Si on a besoin de retourner au garage, ben,
tout à fait. Merci, Claudia. Il faut absolument qu'on se laisse ici, mais on retient ta thérapie de la doudou. Merci pour ta générosité à parler de ta relation avec ta mère et ton père. Claudia Ebacher, animatrice, blogueuse. Allez voir, ça marche toujours, le Club des Supermoms. Ça fait 3 ans que ça existe. Allez sur claudiaebacher.com. Merci beaucoup, Claudia, qui fait des conférences également au-delà de l'ombre, partout au Québec. Elle a une vision très intéressante, très rassurante aussi maintenant de tout ça. On va s'arrêter ici, tout de suite après la pause. Je vous écoute, je vous pose la question, est-ce que vous estimez avoir eu de bons parents? On se raconte nos espèces d'histoires d'enfants, ça nous fait du bien. Puis on va chercher une doudou si on en a une pas loin. À tout de suite tout le monde. Est-ce que vous avez eu de bons parents? C'est tellement une relation importante, la relation qu'on a avec nos parents. C'est une relation qui dicte beaucoup aussi l'adulte qu'on va devenir. C'est ce qui fait la différence entre finalement une vie équilibrée et des années de thérapie. Ou de soins chez le garagiste, comme disait Martin, je pense que ton allégorie, on va la suivre, on va l'adopter. On est avec nous, Claudine, bonjour.
Bonjour.
Quel genre de relation vous avez eu, vous, avec vos parents?
Moi, j'ai eu une relation, je dirais, positive-négative, mm-hmm. dans le sens où j'ai eu des parents aimants, j'ai eu des parents présents, mais ils ont eu des bonnes ratées, mettons. Mm-hmm. J'arrive, je suis en quatrième secondaire, j'arrive très, très fière de mon examen final de mathématiques, 98. Et j'arrive à mon père, papa, j'ai 98, de me répondre, t'aurais pu te forcer.
Ouais.
Ouch.
Oh, ça, c'est tellement... J'ai senti mon château de cartes. Puis tu sais, à cet âge-là, on a encore... Les parents sont encore un bon modèle. Et ma mère, bon, elle était dépendante à certains narcotiques, dépendante aussi à l'alcool. Aujourd'hui, je vous en parle avec tellement de plaisir parce qu'il y a beaucoup de gens qui pensent qu'on reste marqué de ça. Ça a forgé qui je suis. Ça a, leur débâcle à eux ont fait en sorte qu'aujourd'hui, je calcule que j'ai un meilleur jugement.
Ouais.
J'ai un sens des décisions qui est plus aiguisé.
Mm-hmm.
Merci. Si j'avais peut-être passé autrement, j'aurais peut-être vu autre chose.
Oui, effectivement. Merci, Claudine. On a Marc avec nous. Bonjour.
Oui, bonjour.
Quel genre de relation vous aviez eu avec vos parents? Est-ce que vous estimez avoir eu de bons parents, Marc?
Oui. Si j'avais à choisir, je reprendrais.
C'est vrai? C'est bon. Mon Dieu, ça, c'est bon, ça. Ça, c'est, j'ai comme l'impression que c'est pas courant, ça. C'est quand même rare.
C'est rafraîchissant d'entendre ça.
Ouais. Vous êtes chanceux, Marc.
Oui, absolument. Absolument. Puis, ça fait pas d'autres des parents parfaits, mais on a tellement eu du fun, là. C'est la pêche. Tu sais, même si mon père est alcoolique, moi. Puis, on vient du Saguenay, ça fait que c'était pas rare, là. Tu sais, on est au Saguenay, toutes mes ongles, toutes mes. T'sais,
tout le monde était face à la bouteille, fait que pour vous, c'est pas un problème. Oui, c'est ça.
Tu sais, ça jouait au cartes, ça prenait de la bière, puis ça fumait la cigarette, puis il y avait de la boucane jusqu'à la table. Mais ça, ça fait partie de mes souvenirs d'enfance.
Mais il y avait l'alcool heureux, il était pas, quand tu prenais un verre de trop, il vous tabassait pas avec...
Non, il n'y avait touché à personne.
Oui.
Jamais. C'est comme une maladie, ça, tu sais.
Oui, tout à fait.
Je sais pas trop, là, tu sais, il se levait le matin, 6 heures du matin, une bière.
Ouais.
Puis à la lumière de ça aujourd'hui, ça me dérangerait plus. Quand j'étais jeune, ça me dérangeait un petit peu, ça. Ben plus jeune, là, quand je dis jeune, là, pas 7 ans. 7 ans, on ne boit pas ça. Ça m'a pris comme 20 ans à m'apercevoir que mon père avait des problèmes de boisson.
Ouais.
Parce que dans ce temps-là, moi, j'ai 57 ans, dans ce temps-là, il conduisait avec une bouteille entre les jambes.
Mais je pense que c'est... Merci, Marc, mais ça me fait penser à ton histoire, Geneviève. Toi, tes deux parents alco, ton père était vraiment... Tu m'as encore dit, il n'y a pas très longtemps, moi, j'ai jamais connu ma mère pas à jeun. Là.
Non, c'est ça, mais comme monsieur parlait, Marc, on pense que c'est normal. Ouais. Quand tu viens d'un environnement comme ça, bon, il y a eu la chance d'avoir du plaisir à travers ça, puis tout ça, puis à un moment donné, à se rendre compte que, attends un peu, là, mon père, il boit matin, midi, soir, la nuit. Moi, mon père me racontait que dans ses années d'alcoolisme sévère, il se levait la nuit pour boire, là. En fait, c'était son verre d'eau de nuit que nous, on a à notre table.
Fait que c'est sûr que ça fait pas, tu sais, c'est bien, il n'a pas été battu, Marc, toi non plus d'ailleurs, ton père
t'a
jamais battu.
Non, non, mon père zéro,
violent, mais il y en a qui ont mangé des claques plus souvent qu'autrement, dès que le parent était un petit peu girlot, là.
Mais il y a des années où c'était un peu normal.
Toi, Martin, non?
Moi, mes parents, il n'y avait aucun problème d'alcool. Okay. Il n'y avait pas de... Mon père prenait une bière de temps en temps, mais lui, de façon viscérale, mais
il était violent.
Lui, mentalement... Okay. Il était affecté, puis il était violent. C'est un enfant du Plessis qui a eu ses propres difficultés quand il était jeune. Puis malheureusement, lui, au lieu de le renforcer, ça l'a sévèrement affecté.
Ouais.
Fait que lui, il était tout le temps dans sa tête. T'sais, c'est ça le défi chez nous, c'est qu'on ne savait jamais. Moi, j'ai
exploser.
Déjà brisé sa drill. Je me suis fait chicaner, mais pas battre. Puis d'autres fois, juste parce que je riais, parce qu'il y a de quoi de drôle à la télé, puis tout ça, puis que là, c'était pas le moment, j'ai mangé des volées, là, tu sais. Pour rien,
l'expression marcher sur des œufs n'est même pas assez forte, ben, dans le sens où tu savais jamais quand ça allait exploser.
On savait jamais. T'sais. On savait jamais. Il n'y avait aucun indice.
Et c'est là où, comme adulte, tu développes, même si on ne s'en rend pas compte tout de suite, on développe une espèce d'hyper-vigilance.
Ah ouais, moi, j'ai un sixième sens ultra aiguisé.
C'est
là.
Comme on est comme tout le temps le radar qui tourne là, puis qui dit ah, où est le danger.
Moi je rentre dans un lieu public puis je repère tout de suite là, les sources de danger potentiels. Puis tu sais, j'ai fait une bonne vie de jeunesse, là, puis dans les bars, tout ça. Là, moi, je me soyais dans le coin, j'étais dos au mur. J'étais comme tout le temps un peu prêt.
Manque de confiance aussi, souvent, que ça développe chez.
Ben,
t'as de la misère à faire confiance aux autres.
Quand t'as pas de règles claires, que tu sais pas entre quelle ligne tu peux marcher, c'est du gros n'importe quoi. Ouais. Fait que là, c'est sûr que oui, ça vient un peu perturbant.
On a un auditeur là, qui nous appelle Sam, qui a eu des parents qui ont fait partie d'une secte. Hein, c'est ce que je comprends, Sam. Puis c'est difficile pour les enfants qui grandissent dans des sectes religieuses ou dans des familles où la religion prend une place tellement importante qu'on dirait qu'ils aiment plus Dieu que leurs propres enfants. Racontez, comment vous avez vécu ça, vous, Sam?
C'est exactement ça. Et c'est jusqu'à ce jour. Moi, je m'en suis rendu compte l'année prochaine. J'avais tellement fait un voile sur mon passé. J'ai été battu jusqu'à l'âge de 16 ans. Mon frère, j'ai appris l'année dernière qu'il avait été agressé. Ça a été couvert. Puis quand on parle de punition, c'est pas des petites punitions, là, c'est des coups de strap avec le fil de fer électrique, avec le fil du fer à repasser, des 150 coups de strap, 200 coups de strap, puis il fallait que les compter en même temps. C'était assez troublant, ne jamais pouvoir avoir l'affection de ses parents, ne jamais pouvoir avoir confiance en ses parents, puis ça marque jusqu'à ce jour. Jusqu'à ce jour, je consulte. Parce que je m'en suis rendu compte juste l'année passée, parce que je disais que j'avais été discipliné et que c'était anal. Les gens m'ont fait rendre compte à l'entour de moi que c'était pas normal, que j'avais été battu. Et lorsque ça m'a frappé, ouf, j'ai mangé une méchante débarque. Parce que dans le premier souvenir de ma vie que j'ai, là, c'est une volée que j'ai mangée.
Oh.
Après, je me suis débattu.
À quel âge, Sam? Vous vous souvenez de quel âge?
J'avais 4-5 ans, je n'allais pas encore à l'école.
C'était quelle secte ou quel groupe?
C'est les Témoins de Jéhovah.
Ouais.
Puis c'est une des plus hypocrites parce que ils font passer comme s'ils sont bons, ils sont gentils, mais ils sont tellement hypocrites. Il y a des recours collectifs en ce moment qui sont faits par certaines des personnes que je connais contre les Témoins de Jéhovah pour des agressions sexuelles qui n'ont jamais été dévoilées et d'inceste dans les familles. C'est vraiment horrible pour vrai. Ce que ça fait comme signe de savoir que tu passeras jamais en premier. Jamais en premier. Tes parents, c'est pas toi qui aimes, c'est leur faux Dieu qui aime.
Vous êtes sorti de là, mais est-ce qu'ils sont encore là-dedans, vos parents?
Oui, ils sont encore là-dedans. Ils sont encore là-dedans. Je suis né là-dedans, mes parents sont encore là-dedans. Aussitôt que je suis rentré là, au primaire, j'ai vu qu'il y avait un problème, puis je me suis dit, à 18 ans, moi, je débarque. Fait que j'étais assez fort psychologiquement pour me construire une double vie, faire ce que je voulais de mon côté. Mais c'est pas normal de vivre une enfance comme ça, là, quand même. Fait que, il n'y a plus de mots pour décrire ça, puis c'est comme pour dans ma vie, moi, c'est impardonnable.
Ouais, tout à fait. Ouais.
Je peux pas faire ça à des enfants.
Merci.
Fait que non, j'ai pas eu des mots.
Ben non, je comprends. Merci beaucoup, Sam, d'avoir pris le temps de nous parler. Restez en ligne, on va prendre vos coordonnées. On va s'arrêter ici, on vient tout de suite après. On a Jean-Guy avec nous. Bonjour, Jean-Guy.
Bonjour.
Avez-vous eu des bons parents, vous diriez?
Oh. Ben, entre guillemets, mon père, oui. Mais ma mère, ça a été terrible. Puis même aujourd'hui, j'ai mis un deuil là-dessus parce que j'étais plus capable. Moi, j'ai 6 enfants, dont un bébé de 4 ans puis un bébé de 6 ans, ils sont mes derniers.
Mm-hmm.
Puis je suis le seul dans la famille qui a eu des enfants, je suis le seul qui a travaillé à mon compte puis qui a eu 3 maisons. Je suis rendu à 59 ans. Puis elle vient même pas voir ses petits-enfants.
Mm.
Imagine. Puis quand j'étais jeune, pourquoi moi, c'était tout le temps moi qui se mettait sur le dos à moi.
Ouais,
quand elle me disputait, elle me frappait avec une règle. Puis elle m'a envoyé dans le solarium en plein hiver. Pas de gilet, rien. Elle m'a envoyé dans le solarium. Puis quand elle lâchait la poignée à la maison avec mon père, ben c'est tout le temps, moi, j'étais visé. À un moment donné, elle s'est fâchée, puis elle a garaché un chaudron de patate à ma guillanté.
Elle vengée sur vous, mettons. Ouais. Vous étiez son souffre-douleur. Ouais.
C'était tout le temps, moi, tout le temps. Puis la dernière Noël, puis c'est pour ça que maintenant, j'ai haïssé Noël. Parce que le dernier Noël que je me souviens, j'avais à peu près 7 ans. Ma mère, elle a dit, c'est le dernier Noël que vous allez voir. Puis elle a brisé tout l'arbre. Dans ce temps-là, c'était un arbre qui était en espèce d'aluminium. Là. Elle l'avait brisé, garoché à terre. Puis là, ben, deux, trois jours après, elle m'a envoyé quelque part dans un camp. Puis elle me laissait là, parfait.
C'est pas drôle, Jean-Guy. Là, visiblement, je sens dans votre voix, merci beaucoup de votre témoignage. Je sens que pour Jean-Guy, là, c'est encore très présent. Là,
ça ne peut pas faire autrement qu'être marquant.
Le maudit sapin de Noël là, qu'il fallait installer. Combien d'enfants ont eu un 24 décembre, ou en tout cas la journée où tu l'installais, là, combien d'enfants ont eu des problèmes cette journée-là parce que soudainement, le père panique parce que l'arbre ne tient pas tout seul puis qu'il casse les boules parce que là, la mère qui se mêle. Oh mon Dieu! On a Karine qui nous appelle.
Salut!
Bonjour Karine!
Bonjour!
Salut! Ben, écoutez, moi, j'irai pas dans les détails, puis je trouve ça intéressant parce qu'à peu près tous les gens qui ont appelé pour dire qu'ils n'avaient pas eu des super parents ont dit au moins un point que j'aurais aimé partager. Donc, on a fait le tour. J'irai pas dans le détail. On va dire un père pédophile puis une mère narcissique. Ça va s'arrêter là. Par contre, je veux mettre au clair s'il y a d'autres gens qui n'ont pas eu des bons parents, qui pensent qu'ils peuvent pas arriver à leur fin, à faire une famille. Moi, j'ai eu 4 enfants. J'en ai 2 qui sont adultes maintenant. Puis les 2, à un moment donné, évidemment, là, après la crise d'adolescence, m'ont dit « Maman, je t'échangerai pas pour rien au monde.
Ouais.
Je suis reconnaissant pour l'enfance que j'ai eue. T'as fait de la magie. Ils ont cru au Père Noël jusqu'à 10 ans. J'ai revécu mon enfance que j'ai pas eue avec mes propres enfants, puis ça fait des adultes aujourd'hui équilibrés. Puis j'ai lu un livre à 20 ans qui m'a vraiment mis sur la bonne piste de la parentalité. Ça s'appelle « Parents responsables, enfants équilibrés ». Ça a été écrit par François Duménil, qui lui, le point le plus important là-dedans, c'est l'adulte en face de l'enfant doit toujours être présent avec le parent intérieur. Mm-hmm. Parce qu'à partir de entre 6 et 8 ans, le parent intérieur de tout être humain naît. Puis quand l'enfant regarde le parent en face de lui, puis qu'il se sent lui-même un parent plus compétent, c'est là qu'on perd le contrôle.
Mm-hmm. Tout à fait.
Fait que moi, à 7 ans, j'étais plus compétente que mes 2 parents mis ensemble. Alors, j'ai eu la chance de me faire des amis qui avaient des bonnes familles. Je me suis approprié leur famille. J'allais chercher autour de moi ce que j'avais pas à la maison.
Ouais.
Puis on est capable d'avoir des enfants, de les rendre heureux, puis d'en faire des adultes équilibrés à leur tour.
Merci, ben, Karine, de ce témoignage fort. Puis ça rejoint ceux qui disaient tout à l'heure qu'on peut donner, c'est pas vrai qu'on peut pas donner ce qu'on n'a pas eu. On peut donner ce qu'on n'a pas eu. On peut se reprendre, mais on s'en parlait l'autre jour, Geneviève Evrel. Tu sais, combien d'enfants, encore aujourd'hui, ont des responsabilités d'adultes?
Ben oui.
Et c'est dans les droits des enfants. La Convention des droits de l'enfant existe, là. Il y a plein de points. Et un des plus importants, c'est le droit d'être un enfant. C'est niaiseux, là. Une convention de l'enfant, tu te dis, c'est comme un droit.
C'est comme
impossible.
Ça va de soi.
Non, le droit d'être un enfant quand t'es pas un adulte, de pas avoir des responsabilités d'adulte, de pas être obligé d'être le parent de tes parents. Puis dans tous ceux qui ont témoigné, je trouve que c'est ce qui ressort. Vous trouvez pas? Martin Provencher, peut-être, il nous reste une minute à tous les deux.
Ça m'arrive des fois de dire à mes fils, on va faire telle chose. Puis là, ils me posent des questions qui sont peut-être un petit peu trop en avance. Là, je dis, regarde, le reste, là, c'est ma partie. Ça, c'est moi qui ça regarde.
C'est
là.
Bien, ça.
Vous autres, vous allez faire telle affaire, puis on va avoir du fun. Puis le reste, là, inquiétez-vous pas, ça, je m'en occupe.
Ah, exact.
Je le prends sur moi, c'est moi l'adulte.
Est-ce que tu vois que Geneviève a boit tes paroles parce qu'elle a un enfant de 2 ans?
Ben oui, non, je prends des notes. Là. Moi, quand je trouve ça smart, je me note ça, puis je n'oublierai pas. Mais le témoignage la dernière de Karine, waouh! Elle vient vraiment de me faire allumer que c'est à cet âge-là que je me suis rendu compte que j'étais la mère de ma mère. Je me rappelle la protéger, je me rappelle je l'appelais pendant mes pauses à l'école savoir si elle allait bien. Je veux dire, j'allais prendre le téléphone, tu sais, dans le bureau du directeur, je peux-tu faire un appel, m'assurer qu'elle était correcte parce que je l'avais pas vue le matin parce qu'elle dormait encore quand je partais pour l'école, tu sais.
Oh, wow. Il faut être très indulgent envers l'enfant qu'on a en nous. Ouais.
On en a tous un.
On en a tous un, il faut en prendre soin. Ouais. Puis il faut aussi pas trop se flageller, puis pas trop être critique de soi. Là. Non, on a assez eu.
Excepté qu'on a des défauts.
Exact.
Ah ben oui, ça oui.
Hey, merci Martin, merci beaucoup Geneviève. Merci à tout le monde, on se retrouve demain.